Chers amis, je vous accueille avec beaucoup de joie pour notre deuxième journée de cette semaine de Pâques que nous avons décidé de consacrer au monothéisme. Et vous voyez qu'il y a à la fois une exposition sur le protestantisme qui est à votre disposition dans l'espace Quéré, et puis dans quelques instants, une conférence sur être musulman au quotidien, et nous sommes dans cet entre-deux. Nous sommes peut-être au-delà, je dirais, dans une sorte de transcendance sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir pendant le cours de ce culte. La transcendance, c'est notamment le fait que ce soir, nous sommes réunis au nom de plus grand que nous. Et parce que nous sommes réunis au nom de plus grand que nous, nous sommes plus grands que ce que nous sommes. Voilà aussi le sens de la grâce et de la paix. Nous ne sommes pas simplement l'addition de nos personnes, nous sommes beaucoup plus que l'addition de nos personnes, et cette transcendance est ce que nous entendons célébrer ce soir. Et je vous invite à vous lever pour chanter au psaume 92, les strophes 1 et 4, car c'est chose belle que de louer ce Seigneur qui nous rend infiniment plus grand que ce que nous pensions. Psaume 92, les strophes 1 et 4. Dans une assemblée protestante, même quand on indique la quatrième strophe, c'est quand même la deuxième qui est chantée, parfois. Je vous invite à rester debout pour louer Dieu avec quelques premiers accents de la tradition musulmane, avec les mots de la première sourate. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur des mondes. Celui qui fait miséricorde, le miséricordieux, le roi du jour du jugement. C'est toi que nous adorons. C'est toi dont nous implorons le secours. Dirige-nous dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Non pas le chemin de ceux qui encourent ta colère, ni celui des égarés. Amen. chapitre 38, les versets 3 à 18. C'est l'Éternel qui s'adresse à Job en ces termes. Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil des flots, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? As-tu fait pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée d'un vêtement? Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras se lève soit brisé? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle, si tu sais toutes ces choses. Hier, nous parlions d'une théologie de l'Alliance, et une théologie de l'Alliance pourrait faire penser que Dieu est en quelque sorte un bon ami, un ami proche. Nous pourrions penser que Dieu est un proche, et peut-être même plus qu'un proche, un double de nous-mêmes, un autre soi-même. Ce qui est intéressant dans le personnage de Job, c'est qu'il nous permet de redécouvrir un Dieu transcendant. Un Dieu transcendant dont il me semble que l'islam est particulièrement porteur. Le premier constat que nous pouvons faire à la lecture du discours que Dieu tient à Job, c'est que nous sommes bien peu de choses. Cette description du monde, qui se prolonge bien au-delà des versets que je viens de vous lire, souligne admirablement bien que le monde tourne très bien sans nous, et que sur bien des domaines, nous n'avons aucune connaissance sérieuse qui permet de savoir comment les choses fonctionnent. Plus encore, ce passage nous dit que nous ne sommes pas à l'origine de ce monde et de ses puissants mouvements, de ces puissantes actions cosmiques qui le caractérisent. Dit autrement, nous sommes des créatures et pas le Créateur. Voilà qui devrait toujours nous ramener à une saine humilité. L'aurore ne nous doit rien, la mer ne nous doit rien, les astres ne nous doivent rien. Nous, par contre, nous sommes le fruit de nombreuses interactions de tous ces éléments et de bien d'autres qui nous ont précédés et qui nous ont permis de venir au monde et de prendre notre place parmi le reste. Ainsi, le discours de Dieu décrit l'être humain comme n'étant pas à l'origine de nombreux aspects de la vie. Et cela est une manière d'exprimer en creux la transcendance. Il y a dans notre vie bien des aspects qui transcendent notre condition. Il y a bien des actions qui sont tout à fait indépendantes, non seulement de notre volonté, non seulement de nos propres actions, mais même de notre imagination. Il y a dans notre vie bien des aspects qui transcendent nos espoirs et nos vœux. Il découle de cela une seconde raison de faire preuve d'humilité, certainement pas d'orgueil, c'est que nous ignorons toujours d'ailleurs, bien des choses sur le cours de la vie. Individuellement, nous ne savons pas tout. Je ne suis d'ailleurs pas sûr qu'à un moment donné, nous arrivions à tout savoir sur tout. Mais pour l'heure, nous ne savons pas tout, loin de là. Nous ne savons même pas ce que nous ignorons en fait. Il faut tellement se spécialiser dans un domaine pour en savoir un peu que nous sommes incapables de tout savoir sur tout de manière sérieuse. Nous sommes ignorants dans bien des domaines, à commencer par celui dont on est en principe le plus familier, et c'est nous-mêmes. Bien malin celui qui pourrait dire qu'il se connaît vraiment. Nous avons toutes les peines du monde à savoir qui nous sommes, ce que nous désirons, ce qui est souhaitable, et la sagesse biblique nous dit que nous ne savons pas vraiment ce que nous serons demain, ce que nous ferons, et qu'il vaudra mieux manger et boire dès ce soir, car demain, nous mourrons. En conséquence de quoi il est bien prétentieux, finalement, celui qui prétend savoir ce que Dieu veut, ce que Dieu espère, autrement dit, ce qui a un caractère vraiment universel dans notre monde, ce qui est vraiment vivable pour tous. Bien des aspects échappent à notre action, à notre volonté, disais-je, à notre connaissance, et la religion ne règle rien à cela. Plus exactement, la religion n'est pas là pour lever les mystères, ou plus exactement, le voile de la connaissance. La religion est là pour nous inscrire pleinement dans l'humilité, qui reconnaît que nous ne sommes pas créateurs, mais créatures. La religion nous enseigne l'humilité, elle nous rappelle que nous sommes des êtres limités, nous le savions par le fait qu'il y a un terme à notre vie biologique. La théologie nous enseigne aussi sous l'angle de l'origine et du savoir des choses qui ne sont pas totalement accessibles. Pour autant, Dieu ne désigne pas ce que nous ignorons. Dieu n'a pas été conçu comme un bouche-trou, n'a pas été conçu comme ce qui vient combler nos lacunes. Dieu désigne ce qui nous fait prendre conscience de notre humanité, à commencer par nos limites. Mais quand nous regardons un peu plus près ces différents aspects de la vie, de l'univers qui sont décrits dans ce texte biblique, nous constatons que les différents exemples qui sont donnés ne sont quand même pas si étrangers que cela à notre savoir. Les différents mystères de la vie dont il est question ici ont en fait été percés. Et la vérité est qu'ils étaient déjà percés à l'époque où ils ont été écrits. Il ne fallait pas être un grand scientifique pour savoir que ce sont les rivières qui finalement se jettent dans les fleuves, qui eux-mêmes se jettent dans la mer, et que ce sont les nuages qui font tomber l'eau, qui remplissent la rivière. L'inconnaissance a reculé de plus en plus au fur et à mesure que la science progressait, mais déjà à l'époque biblique, les hommes connaissaient les cycles astronomiques. Et ils savaient que le grand cycle de la nature, comme le dira plus tard Théodore Monod, consiste à voir que la nature est finalement un grand intestin. Le lion, c'est de la gazelle digérée. Ils le savaient, mais pas individuellement. Nous avons nos zones d'ombre, nos zones d'inconnaissance, qui en fait se trouvent éclairées par recoupement, par le savoir d'autres personnes, d'autres spécialistes, d'autres gens qui se sont intéressés à une question et qui ont pu formuler des hypothèses pour comprendre comment les choses fonctionnaient. La spécialisation, c'est le fait que nous ne pouvons pas nous concentrer sur tous les domaines et que nous confions à certains le soin de travailler tel ou tel aspect et d'en rendre compte pour nous donner accès à ce que nous n'aurions pas suffisamment d'une vie pour découvrir. Et cela nous dit qu'il y a finalement de la transcendance qui n'est pas simplement verticale, entre nous et le ciel. Il y a aussi la transcendance horizontale, entre nous et l'autre. L'autre, c'est celui qui se tient là, à nos côtés, un peu plus loin, beaucoup plus loin, peut-être même ne l'ai-je jamais rencontré. Mais celui-ci est porteur d'une vérité qui m'échappe, et qui m'est nécessaire, et qui me sera utile. C'est une figure de l'altérité. C'est un autre qui possède un autre savoir, qui jusque-là m'échappe, mais avec lequel je peux entrer en relation pour élargir l'espace de ma connaissance. L'autre est celui qui me révèle le monde tel que je ne le connaissais pas encore jusque-là. C'est celui qui me révèle la vie avec une profondeur que je ne soupçonnais pas jusque-là. L'autre, c'est celui qui me révèle que la connaissance est infiniment plus grande que nous, infiniment plus grande que ce que nous pouvons penser et imaginer. Et du coup, cela nous aide peut-être à comprendre aussi le sens de cette semaine que nous passons ensemble à traverser les monothéismes. C'est le théologien John Hick qui disait, après tout, les religions sont peut-être comme des peuples qui se promènent dans des vallées. Chaque peuple se promène dans une vallée et acquiert tout un tas d'expériences parce qu'il aura affronté des dangers, il aura élaboré des projets. Et puis un jour, tous ces peuples se retrouvent dans une plaine et ils partagent leurs expériences, ils partagent leur savoir, ils partagent leurs connaissances. Et c'est peut-être une figure du dialogue interreligieux. Le fait que l'autre cesse vraiment d'être une menace, mais devient porteur d'une expérience et d'une vérité qui jusque-là m'avait fait défaut et qui va pouvoir enrichir ma compréhension du monde. Alors, notre capacité à conjuguer nos expériences, nos savoirs, nos analyses, nos compétences avec celles des autres, voilà ce qu'il y a peut-être de véritablement divin dans notre vie. Voilà ce qui transcende notre quotidien. Voilà ce qui est à même, en tout cas, de transcender notre avenir. Amen. Kamnerbien de Johann Sebastian Bach. Mais je propose quand même quelques mots issus de quelques sourates et quelques mots de prière pour nouer notre chair. Ô Dieu, maître de la souveraineté, tu accordes la souveraineté à qui tu veux et tu ôtes la souveraineté de qui tu veux. Tu honores qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bonheur est dans ta main. Tu as en vérité le pouvoir de faire tout ce que tu veux. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour et tu fais pénétrer le jour dans la nuit. Tu fais sortir le vivant du mort et tu fais sortir le mort du vivant. Et tu accordes tes dons et richesses sans compter à qui tu veux. Alors accorde-nous ta grâce. Rends-nous plus accueillants. Plus accueillants à ton amour inconditionnel. Et qu'il transcende notre existence. Qu'il nous fasse envisager de nouvelles manières d'être qui soient plus fraternelles, plus responsables, plus miséricordieuse. Notre Seigneur, c'est en toi que nous plaçons notre confiance. Et c'est vers toi que nous nous tournons. Et c'est vers toi que sera le retour. Notre Seigneur, ne fais pas que nous devenions une occasion de scandale pour les non-croyants. Donne-nous d'accueillir ta parole qui vient de plus haut que nous et qui retentit au plus profond de nous pour que nous agissions et parlions à la surface de la terre. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir une bénédiction de la part de Dieu. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées. L'Éternel nous bénit et nous garde. Amen. Et je vous invite à chanter comme hier au cantique 243, la strophe 1, première strophe du cantique 243.